Chapitre 12. Le sacerdoce de Rome ou l'idolâtrie ancienne et moderne. Je fus ordonné prêtre par Monseigneur Sinaï, premier archevêque du Canada, dans la cathédrale de Québec le 21 septembre 1833. Où trouver des paroles assez fortes pour dire la hauteur de mes pensées, l'exaltation de mes sentiments, lorsque le délégué du souverain pontife, imposant ses mains sur ma tête, me donna le pouvoir de créer mon Dieu en changeant le pain et le vin de l'Eucharistie dans le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Les illusions de gloire qui séduisirent Ève lorsque le tentateur lui dit « Vous serez semblable à Dieu » n'étaient rien en comparaison de mes visions de gloire et de grandeur lorsque la parole réputée infaillible de mon Église m'assura que j'étais devenu l'égal de mon Sauveur et mon Dieu, que j'avais reçu non seulement le droit de lui commander et d'en être obéi, mais le pouvoir de le créer. L'âme pénétrée d'une joie inexprimable et le cœur rempli de la plus sincère reconnaissance envers le bon Dieu qui venait de m'élever à une dignité aussi sublime, je me levai des pieds de l'évêque et me rendis dans son oratoire où je passai le reste du jour dans la retraite, uniquement occupé, à méditer les miséricordes infinies du Seigneur à mon égard. J'avais enfin reçu ce sacerdoce de puissance, de sainteté et de gloire que mon Église m'avait toujours dit être le plus grand don que Dieu pouvait faire à l'homme. Je le possédais donc, ce divin sacerdoce vers lequel cette Église avait fait tourner mes pensées, mon cœur et toutes les plus saintes aspirations de mon âme depuis ma plus tendre enfance. La dignité que je venais de recevoir était au-dessus de toutes les dignités de la terre. Le saint caractère du sacerdoce, imprimé dans mon âme avec le sang même de Jésus-Christ, était comme une couronne de gloire et de sainteté que rien ne pouvait jamais me ravir. J'étais devenu prêtre du Très-Haut, pour le temps et pour l'éternité. Je crus que le meilleur moyen de montrer ma reconnaissance au bon Dieu, qui venait ainsi de me rendre l'objet de ses miséricordes, était de lui promettre de mener une vie sainte. Et je le lui promis. Je dis à ma langue, « Sois sainte, car tu vas être arrosée tous les jours par le sang de l'agneau sans tache. » Je dis à mon cœur, « Le Fils du Dieu trois fois saint va te choisir comme son lieu de repos tous les jours. Garde-toi donc de tout péché. Et toi, mon âme, combien ne dois-tu pas être sainte, puisque celui devant qui les anges même ne se trouvent pas purs va s'unir à toi tous les jours de la manière la plus parfaite. » J'aperçus en ce moment sur ma table ma pipe pleine de tabac et ma tabatière à priser. Je leur dis, « Je suis prêtre du Dieu de toute pureté et de toute sainteté. Je n'oublierai pas le respect que je me dois à moi-même en restant plus longtemps votre esclave. » J'ouvris la fenêtre et je les jetai dans la rue pour ne plus jamais m'en servir. Le 21 septembre 1833, j'avais reçu les fonctions du sacerdoce, le pouvoir de changer le pain et le vin dans le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Moi, je n'avais pas pu, ce jour-là, faire usage de ce redoutable et sublime pouvoir. Ce n'était que le lendemain que je devais opérer l'incomparable miracle que l'Église de Rome appelle « transsubstantation ». J'avais passé presque toutes les heures du jour et de la nuit, du 21 au 22 septembre, à prier et à remercier Dieu. Bien avant que le jour parût, j'étais à genoux pour me préparer de mon mieux à célébrer ma première messe. Ce jour allait être le plus beau, le plus saint de ma vie. Mais lorsque le son de la cloche vint me dire que le moment de monter à l'autel était arrivé, mon cœur se mit à battre d'une manière si étrange et si rapide que je faillis perdre connaissance. La sainteté de l'action que j'allais faire, la grandeur du sacrifice que j'allais offrir, la majesté du Dieu que j'allais porter dans mes mains, l'étonnant miracle que j'allais opérer, me remplissaient tour à tour de joie, d'admiration et de terreur. Je tremblais de la tête aux pieds. Il est bien probable que je n'aurais pas osé monter à l'autel si quelques amis bienveillants, parmi lesquels étaient M. l'abbé Gazot, secrétaire et grand vicaire de l'archevêque de Québec, n'avaient été là pour me soutenir et m'encourager. La célébration de la messe n'est pas une chose bien facile pour un novice. Il y a plus de 100 différentes cérémonies et postures du corps qu'il faut observer avec la plus grande exactitude. En omettre une seule par négligence ou ignorance, coupable peut entraîner l'âme dans l'enfer. Mais grâce à plusieurs exercices, la semaine précédente, et grâce surtout aux bienveillants amis qui m'aidaient, je célébrais cette première messe avec plus de facilité que je ne m'y étais attendu. La cérémonie dura à peu près une heure, et lorsque tout fut terminé, je me sentis complètement épuisé par les efforts qu'il m'avait fallu faire pour tenir mon cœur, mon âme et mon intelligence en parfaite union avec les grands terrible et saint mystère qui devait s'accomplir par mes mains. L'effort qu'un homme intelligent doit faire pour se persuader qu'il a le pouvoir de changer un petit morceau de pain dans son Dieu est tellement au-dessus des forces ordinaires de la nature humaine que l'état dans lequel l'âme se trouve après avoir réussi ressemble plutôt à la mort qu'à la vie. J'avais donc réellement réussi à me persuader que je venais d'accomplir l'acte le plus grand, le plus sublime et le plus saint de ma vie et, cependant, je venais de me rendre coupable du plus monstrueux acte d'idolâtrie. Mes yeux, mes mains, mes lèvres, ma langue, tous mes sens unissaient leur voix à celle de ma raison et de mon Dieu pour me dire que ce que je venais de voir, de toucher et de manger n'était qu'un petit morceau de pain, qu'une insipide petite galette. Mais la voix du pape me disait que c'était mon Dieu, et il m'avait fallu repousser la voix du Dieu de vérité pour accepter celle du père du mensonge, car chaque prêtre de Rome est obligé de descendre à ce degré de perversité et de folie pour obéir à son Église. On m'a souvent demandé si je me croyais réellement capable de changer le pain de la communion dans le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus-Christ, et si j'ai jamais sincèrement adoré ce Dieu que je créais moi-même avec l'aide de ma servante. À ma honte et à la honte de notre pauvre humanité, il m'a toujours fallu répondre « Oui, j'ai cru, ce que tous les prêtres de Rome sont obligés de croire, que je transformais une petite galette de pain en mon Dieu. Et j'adorais ce Dieu qui était l'œuvre de mes mains. Quand j'avais changé ce pain en mon Dieu, je le montrais au peuple en disant « Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Adorons-le. » Et, tombant à genoux, je me prosternais et l'adorais. Et le peuple se prosternait aussi pour adorer le Dieu que je venais de créer en sa présence. Et maintenant, si l'on me demande « Comment peut-il se faire que vous vous soyez rendu coupable d'un tel acte de folie et d'idolâtrie ?» je répondrai comme l'aveugle de l'Évangile « Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'aujourd'hui je vois. Jésus a touché mes yeux et les a ouverts. C'est un grand prophète, car s'il n'était pas envoyé de Dieu, il n'aurait pas pu faire un pareil miracle. Et je dirai avec Jean, Jésus est venu dans le monde pour exercer un jugement afin que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles.